journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes le 10 février. Dans l'actualité, ce matin, un incendie mortel dans un immeuble à Lyon cette nuit. Une femme et sa fille sont décédées. Et
dans ce journal, nous reviendrons sur un nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Le rendez-vous sportif du jour, Angleterre-France de rugby dans le tournoi des Six Nations. Au cinéma cette semaine, My Beautiful Boy, où l'histoire poignante du combat d'un père pour sortir son fils de l'enfer de la drogue. Et puis des vents violents, beaucoup de neige dans les Alpes. Météo complète à la fin de ce journal.
Et puis à 8h20, la psychiatrie, on en parle beaucoup depuis l'incendie de Paris cette semaine dans un immeuble parisien. La psychiatrie, enfant pauvre de la médecine, on en parlera avec le professeur Marion Leboyer. Elle est co-auteur d'une enquête sur la psychiatrie, l'état d'urgence, paru chez Fayard.
France Inter.
Deux morts dans un incendie à Lyon. Le sinistre s'est déclaré hier soir à la suite d'une explosion dans une boulangerie du 8e arrondissement. Le feu a commencé vers 20h30 dans ce commerce de quartier et s'est propagé aux étages supérieurs. Les victimes, une mère et sa fillette de 4 ans, se sont retrouvées piégées. Christophe Vincent.
Il est 20h30 quand une explosion survient au 125 route de Vienne. La boulangerie du rez-de-chaussée est soufflée. Jean-Pierre, un voisin, raconte.
Une déflagration parce que j'étais dans le restaurant qui tourne. Touche à la boulangerie. Quand on est sorti, on a vu que ça avait tout sauté. Il y avait des débris jusqu'à sur le trottoir d'en face. C'était tout en feu. Et puis, on a vu quelqu'un sauter du premier étage. Depuis qu'elle est ouverte, il n'y a pas longtemps que je viens ici, mais il y a toujours eu un peu de soucis. Il y a déjà un camion qui était rentré dedans, deux voitures qui avaient brûlé devant. Et puis là, plus ce soir.
75 pompiers sont vite arrivés sur place. Trop tard, une femme enceinte et sa fille de 4 ans avaient péri dans l'incendie. Jean-Yves Sécheresse, maire adjoint à la sécurité.
C'est un drame assez terrible. Le papa, c'est lui qui a signalé que la maman et l'enfant étaient au premier étage alors qu'il était transporté à l'hôpital. C'est un drame pour ce quartier, donc un périmètre de sécurité va être maintenu.
La ville a ouvert un gymnase tout proche pour héberger une trentaine de voisins. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Fuite de gaz ou incendie volontaire, le procureur n'écarte aucune piste. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
13e samedi de manifestation des Gilets jaunes, marqué par une baisse du nombre de manifestants, 51 000 partout en France, 4 000 à Paris, où des incidents ont éclaté à l'arrivée du cortège devant l'Assemblée nationale. Les forces de l'ordre ont voulu repousser les manifestants qui tentaient d'enfoncer les palissades de protection de l'Assemblée. Un manifestant a été gravement blessé à la main, peut-être par une grenade de désencerclement qu'il aurait voulu repousser avec la main, selon un témoin. Bilan de cette nouvelle journée de mobilisation avec Béatrice Duguay.
Point commun de toutes ces manifestations, un cri qui parcourt les cortèges. Et puis la Marseillaise par épisode, des noms d'oiseaux beaucoup pour le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Il faut dire qu'ils restent dans les rues, les gilets jaunes les plus hostiles au pouvoir en place. Ce slogan aussi a traversé les cortèges à Toulouse ou Bordeaux, toujours bastion des gilets jaunes, mais où la mobilisation arrive à un étiage. Globalement, les heures de fin de parcours avec les policiers y ont été plus brefs. Ailleurs, encore 3000 manifestants à Dijon, à peu près autant sur Caen ou Châlons en Champagne, mais du recul sur Lyon, Marseille, Nantes et Rennes aussi par exemple. Manifestations régionales de l'Ouest déplacées à La Roche-sur-Yon, où des vitrines du centre-ville ont souffert. Quelques centaines de protagonistes seulement sur Limoges, Rouen, Saint-Étienne ou Grenoble, carrément pas de manifestation à Tours. Celle qui devait réunir les Français et les Italiens à la frontière de Vintimille, elle, a échoué.
Béatrice Duguay. Paris repart en guerre contre Airbnb. Nouveau bras de fer entre la mairie et la plateforme de location sur Internet. Airbnb pourrait avoir à payer une amende de 12,5 millions d'euros pour avoir mis en ligne 1000 logements non enregistrés, comme le prévoit la loi Elan.
En Tunisie, la frustration des victimes et de leurs familles au lendemain du verdict dans le procès de l'attentat du musée du Bardo.
Cet attentat islamiste avait tué 21 touristes, dont 4 Français et un policier. C'était le 18 mars 2015. Hier, le tribunal de Tunis a condamné 15 accusés, dont 3 à la perpétuité. 10, en revanche, ont été acquittés. Dominique Cazin habite Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans. Elle fait partie des victimes de cet attentat du Bardo et elle ne cache pas son amertume à l'issue de ce procès et du verdict.
J'attendais rien, je pensais que ça se passerait comme ça, on n'aurait pas de réponse à nos questions. Quoi. Pourquoi il y a eu ça à ce moment-là, ce jour-là? Pourquoi nous? Un sentiment, si je dis un mot grossier, foutage de gueule, j'ai l'impression que c'était pas forcément très grave. C'était un peu de notre faute. J'ai eu ce sentiment très très fort que c'était de notre faute qu'on était là. au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, après tout, hein, ça peut arriver. Hein, voilà. C'est ce que le président avait déjà dit, on peut mourir en vacances, pourquoi pas. On n'est pas revenu là-dessus et il n'y a aucune responsabilité de la Tunisie. C'est décevant et on s'attendait à ça de toute façon. En plus, il n'y a pas de reconnaissance de l'État tunisien pour ce qui nous est arrivé. On est encore en pourparlers. Moi, j'ai passé une visite médicale il y a 15 jours encore, parce que faut que des experts revoient pour nous indemniser. Donc, vous voyez, on en est là 4 ans après. C'est très, très long et c'est usant. C'est pas arrivé en France, donc c'est pas grave, quoi.
Propos recueillis par François Guérou.
En Syrie, est-ce qu'on s'oriente vers la fin de Daesh ?
En tout cas, une alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie a annoncé avoir lancé sa bataille décisive pour, dit-elle, éliminer les djihadistes du groupe État islamique de leur ultime réduit dans l'est du pays en guerre. Entre 500 et 600 terroristes, pour la plupart des étrangers, se trouveraient encore dans ce secteur, mais aussi plusieurs centaines de civils. Selon la coalition internationale, Daesh contrôlerait désormais moins d'1% de son califat autoproclamé, qui couvrait autrefois de vastes régions en Syrie et en Irak. Le Mexique, l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Le présentateur d'un journal à la radio a été assassiné hier dans l'état de Tabasco. Jesús Ramos Rodríguez présentait une émission depuis plus de 20 ans. C'est le deuxième assassinat d'un journaliste depuis le début de l'année 2019. L'état de Tabasco, dans le sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, est une région où opèrent de puissants cartels de narcotrafiquants, également impliqués dans des vols de carburant, des enlèvements de commerçants et de migrants.
Une idée sortie, une idée cinéma pour ce dimanche pluvieux en France.
Après Alabama Monroe, il y a 4 ans, le réalisateur belge Félix Van Groningen reprend aujourd'hui le chemin d'Hollywood avec My Beautiful Boy, un projet de commande en anglais avec un casting 100% américain et un film tiré d'une histoire vraie, le combat d'un père et de son fils dans l'enfer de la drogue. Steve Carell et Timothée Chalamet, remarquables dans cette histoire poignante qui donne à réfléchir, Corinne Pellissier.
Mon fils a disparu. Nicolas Cheff, S-H-E-F-F.
Il n'a plus touché une seule drogue depuis 8 ans. Nicolas Cheff revient de loin. 7 cures de désintoxication, 13 rechutes, 2 overdoses. Une vie brisée alors qu'il s'apprêtait à 18 ans à intégrer l'une des meilleures écoles du pays. My Beautiful Boy raconte l'histoire de ce garçon tombé à l'adolescence dans l'enfer du cristal, la méthamphétamine, devenue en quelques années l'une des principales causes de mortalité aux États-Unis devant les armes à feu, les suicides et les accidents de la route.
C'est pas comme si j'étais malade, c'est pas un cancer, c'est mon choix et je me suis mis tout seul là-dedans.
Je ne sais même pas comment l'aider.
Tu ne peux pas !
Un combat irrationnel que le jeune homme a d'abord raconté dans un livre, tout comme son père, et que le réalisateur Félix Van Groningen adapte aujourd'hui au cinéma de manière assez frontale, mais avec bienveillance, car leur histoire est universelle, beaucoup de questions, beaucoup de souffrances et des vies bouleversées. Seulement 10% des consommateurs tombés dans l'enfer du cristal s'en relèvent un jour. Le film montre tout, les crises de manque, les vomissements, la peur, la honte, le déni et surtout l'amour inconditionnel de ce père, porté par un Steve Carell remarquable dans ce combat de 10 ans pour tenter de sauver son fils, incarné par Timothée Chalamet.
My Beautiful Boy, un film France Inter.
On va parler de sport pour terminer ce journal avec
de rugby,
le moment attendu dans le tournoi des Six Nations.
Angleterre-France cet après-midi à Twickenham à Londres, là où les Bleus n'ont plus gagné depuis 2005. Écartés du groupe pour le match face aux Gallois la semaine dernière, le trois quarts centre Mathieu Bastaro retrouve une place de titulaire. Il sait ce qui attend les Bleus face à des Anglais qui s'étaient inclinés face aux 15 de France l'an dernier au Stade de France. On écoute Mathieu Bastaro.
C'est un gros défi qui nous attend. Je sais, quand on va jouer en Angleterre, c'est compliqué. Ils sortent d'une grosse performance en Irlande. Donc, oui, il y aura beaucoup d'intensité. Il y aura beaucoup de jeux. L'année dernière, on avait réussi à le relever. Donc, je pense qu'on en est capable. Après, ce sera le contexte. Le fait d'être à Twickenham, qu'il y ait 80 000 personnes à nous crier dessus contre nous tout le match, ça peut avoir deux effets. Peut-être un peu fébrile ou encore ça peut nous transcender.
Coup d'envoi de ce match Angleterre-France à 16h.
C'était le journal de Laurence Thomas.